Vous écoutez France Culture.
Les informations vous sont présentées par Stéphane Robert. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Finalement, pas véritablement d'escalade dans la violence au Proche-Orient. Les Palestiniens ont lancé un jour de colère, mais les rumeurs de cessez-le-feu se font de plus en plus pressantes et ont apparemment calmé les ardeurs. Explication dans une minute de notre envoyé spécial à Jérusalem, Ludovic Piétenu. En France, la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris a finalement été interdite par la préfecture de police. Trop dangereuse, estime le ministre de l'Intérieur. Nous ferons le point avec Michael Ponge. Le chômage en hausse encore une fois, plus 0,3% au mois de juin. Pourtant, il y a de plus en plus d'offres d'emploi, nous dira Jean-Marc Chardon. Et puis le Festival d'Avignon s'achève ce week-end. Joël Gaillot nous dressera un premier bilan de cette édition dirigée pour la première fois par Olivier Py. Dans un quart d'heure du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois, le sujet du jour.
Eh bien le sujet, on parlera tabac, Stéphane, et nous nous demanderons s'il faut rêver d'un monde sans nicotine.
On annonçait des manifestations monstres, un jour de colère à Jérusalem et en Cisjordanie, jour de rage, avait même dit Mahmoud Abbas, contre les bombardements palestiniens sur la bande de Gaza. Il y a bien eu des rassemblements avec un certain nombre de violences et la situation est un peu tendue en Cisjordanie. 5 Palestiniens notamment ont été tués, près d'Hébron et Annapolis. Mais au final, on est loin de l'escalade qu'on pouvait craindre à l'occasion de ce jour de colère décrété par les leaders palestiniens. Nous retrouvons sur place à Jérusalem notre envoyé spécial. Bonsoir Ludovic Piétenu. Ludovic, vous êtes là ? Ludovic Piétenu à Jérusalem ? Il semblerait que nous n'ayons pas Ludovic Piétenu à Jérusalem. On le retrouvera peut-être dans 30 petites secondes, quelques problèmes de liaison. Ludovic, vous êtes là Ludovic ? Non, pas de Ludovic Piétenu. On retrouvera Ludovic Piétenu. Ludovic, vous êtes là ?
Je suis là, hein. Je suis là.
D'accord, bah, je vous entends. Alors,
je suis là.
Oui, Ludovic, je vous entends. Donc, il semblerait, Ludovic, que les rumeurs d'un imminent cessez-le-feu aient un peu calmé les ardeurs.
Oui, tout à fait. Les ardeurs, effectivement, se sont calmées. En effet, il n'y a eu que 5 morts, façon de parler, dans la Cisjordanie aujourd'hui, dans des heurts qui ont notamment opposé des jeunes Palestiniens à des colons. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à un petit regain de violence après l'Iftar, ce soir, après la rupture du jeûne du Ramadan. Néanmoins, c'est l'ambiance plutôt positive qui prévaut, hein, c'est en vue d'un cessez-le-feu qui semble calmer la donne en Cisjordanie et à Gaza. Des officiels palestiniens l'affirmaient dès ce matin, le Hamas serait prêt à accepter ce cessez-le-feu. On attend donc vraiment dans les prochaines minutes maintenant la réponse d'Israël à cette proposition américaine. Ce serait 5 jours d'une trêve humanitaire qui commencerait dès demain. Le cabinet de sécurité israélien autour du Premier ministre Netanyahou semble toujours hésiter entre ceux qui sont prêts à jouer le jeu et ceux qui n'y croient pas. En une semaine d'offensive terrestre, tout de même l'armée israélienne a subi de lourdes perte, 33 soldats morts. C'est un élément de nature à accélérer cette décision dans le sens d'une trêve. Pour ne pas perdre la face, évidemment, car c'est bien là l'enjeu pour les deux parties, Israël pourrait continuer à chercher et détruire les tunnels qui menacent sa population civile. Et enfin, les bombardements cesseraient après 18 jours.
Ludovic Piétenu depuis Jérusalem, merci. Et puis, autre signe que l'heure semble à l'apaisement, plusieurs compagnies aériennes vont reprendre leur liaison au départ et à destination de Tel Aviv. Ce sera notamment le cas d'Air France ce soir et de la Lufthansa à partir de demain. Notez également qu'en Iran, des centaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Téhéran en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, des manifestations au cours desquelles on entendait « mort à Israël » et « mort à l'Amérique ». Manifestation pro-palestinienne annoncée également à Paris demain après-midi samedi, manifestation qui a été interdite aujourd'hui par la préfecture de police. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, juge le parcours entre la place de la République et Nation à haut risque, mêmes arguments que le week-end dernier. Bonsoir Michael Ponge.
Bonsoir.
On est sur une configuration très différente de la manifestation de mercredi dernier qui, elle, avait été autorisée.
Oui, le parcours, hein, d'abord vous en parliez. Donc mercredi, entre Denfert-Rochereau et les Invalides, sans aucun lieu de culte juif. Demain, entre République et Nation, on est là tout près de la rue de la Roquette où des incidents aux abords d'une synagogue justement ont éclaté le 13 juillet dernier. Ensuite, il y a la sécurité des organisateurs jugés expérimentés en la matière avant-hier. Tout le contraire, m'expliquait tout à l'heure un policier. Les garanties ne sont pas les mêmes, me disait-il, ajoutant que c'est le manque de modération modération de ces organisateurs aussi qui a pesé. Et il faut savoir que justement, ces organisateurs eh bien, sont les mêmes que samedi dernier à Barbès. Alors justement, qui sont ces organisateurs? Au comparatif encore là aussi, mercredi, je vous le disais, le PC et la CGT, un collectif, le collectif aussi national pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Bref, des organisations historiques que l'on connaît. Demain, différents organes, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, mais aussi le Palestinian Youth Movement, l'Union juive française pour la paix, l'Union générale des étudiants de Palestine, ou le PIR, le Parti des indigènes de la République. En somme, un front désuni pour les autorités, avec surtout des revendications bien plus larges que l'arrêt des bombardements israéliens sur Gaza, comme on l'a entendu mercredi. Là, les organisateurs réclament aussi la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés palestiniens, et soutiennent également le Hamas, considéré, je vous le rappelle, comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Youssef Boussouma du Parti des indigènes ne voit pas où est le problème.
Bien évidemment que nous soutenons également le Hamas, mais nous soutenons non pas parce que nous serions des adeptes. Le Hamas est l'instance dirigeante légale à Gaza. Que les gouvernements européens décident si ou ça, c'est leur problème. Hamas fait partie du gouvernement d'Union nationale palestinienne. Hamas et toutes les autres organisations qu'il y a à Gaza sont parfaitement respectables aux yeux des Palestiniens, à moins que ce soit nous, d'ici de France, qui allons décider pour les Palestiniens.
Dès lors, Youssef Boussouma juge cette interdiction de manifester comme une décision politique ignoble et raciste, très dangereuse pour le gouvernement, dit-il. Lui et les autres organisations n'ont pas encore décidé s'ils maintenaient ou non leur appel à manifester.
Michael Ponge, notez que les organisateurs ont déposé un recours contre l'interdiction devant le tribunal administratif. Si ce recours n'aboutit pas, il pourrait saisir demain le Conseil d'État. L'Europe au chevet de l'Ukraine en proie à une grave crise politique intérieure, alors que les 28 pays de l'Union discutent encore d'un alourdissement des sanctions économiques pour tenter de forcer Vladimir Poutine à retirer son soutien aux séparatistes pro-russes. La Russie, elle, anticipe ces nouvelles sanctions qui pourraient intervenir la semaine prochaine. La Banque centrale russe a décidé de relever son principal taux directeur de 7,5% à 8%, décision prise aujourd'hui à la surprise générale. À Moscou, les explications de notre correspondant Marc Crépin.
L'objectif de la Banque centrale est double. Bloquer la dérive inflationniste, le rouble, depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en mars 2012, a perdu 25% de sa valeur, et bloquer la fuite des capitaux en essayant de rendre attractifs les taux d'intérêt. Le taux directeur va donc passer à 8%. D'ailleurs, l'inflation suit actuellement un rythme de près de 8%, elle aussi, et c'est beaucoup trop. La fuite des capitaux, elle, n'a rien à voir avec cela, mais en revanche, elle est très influencée depuis des semaines par les sanctions occidentales. Les investisseurs se détournent de la Russie. 70 à 80 milliards de dollars ont ainsi quitté le pays pendant le premier semestre de cette année. La catastrophe du Boeing de la Malaysian Airlines n'a fait que renforcer l'inquiétude de ceux qui pariaient sur le développement de l'économie russe. D'autant que les nouvelles sanctions prévues, en particulier par l'Union européenne aujourd'hui, pourraient priver les plus grandes banques russes de capitaux. Or, ce sont elles qui financent et dynamisent l'économie. Ce sont très souvent des banques d'État ou des institutions liées aux entreprises d'État.
Marc Crépin, à Moscou. Sur le terrain, dans l'est de l'Ukraine, les combats se poursuivent entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes, ce qui rend très difficile le travail des inspecteurs néerlandais qui tentent d'enquêter sur le crash du Boeing de la Malaysia Airlines abattu par un missile le 17 juillet dernier. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, aujourd'hui au cours d'une intervention devant les députés aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui envisageraient d'envoyer sur place des militaires d'élite pour sécuriser la zone. Explication, Pierre Benazet à Bruxelles.
Les parlementaires néerlandais réclamaient depuis le jour même de la catastrophe d'être tenus informés par le gouvernement des contacts diplomatiques et des avancées de l'enquête sur le terrain. Les Pays-Bas se sont vus confier la direction de l'enquête et ils ont déjà envoyé des équipes d'experts en Ukraine. Mais le Premier ministre Mark Rutte leur a dépeint une situation où le travail quotidien est particulièrement compliqué. Avec le contexte dans lequel nous opérons actuellement, nous devons réévaluer la sécurité quotidiennement. C'est notre coordinateur national qui s'en charge. Tous les jours, sur base des informations de nos services de renseignement, de l'OSCE et d'autres sources, il évalue les conditions de sécurité. Alors il est vrai que les séparatistes ont affirmé trouver important que nous soyons aussi sur place pour y faire notre travail, mais la région n'est pas sûre. Ça veut dire que nous devons en permanence sous-peser ce qu'il est possible de faire ou non. Les Pays-Bas ont déjà envoyé sur place 40 gendarmes de la marine rez-de-chaussée royale, mais ils ne sont pas armés pour l'instant. Le gouvernement néerlandais étudie la possibilité de déployer en Ukraine, pour la sécurité de leur personnel, un détachement de fusiliers marins, les troupes d'élite néerlandaises, une décision qui ne sera pas prise avant ce week-end.
Dans le crash de l'avion d'Air Algérie hier matin dans le nord du Mali, bilan revu à la hausse, ce ne sont pas 51 mais 54 Français qui ont péri. Nouveau décompte officiel révélé par Laurent Fabius cet après-midi, il n'y a aucun survivant parmi les 118 occupants de l'appareil. L'analyse d'une des boîtes noires dira s'il s'agit bien d'un accident suite à des perturbations climatiques. Le chômage n'en finit plus de grimper en France. Nouvelle hausse au mois de juin, 9400 chômeurs supplémentaires, ce qui correspond à une hausse de 0,3%. C'est relativement modeste comparé au mois précédent. Comment peut-on l'expliquer, Jean-Marc Chardon ? Bonsoir.
Bonsoir.
Les offres d'emploi qui sont en hausse ?
Mais écoutez, on est tout de même sous la barre des 10 000 chômeurs en juin. On frôlait les 25 000 le mois précédent. Alors, entre les deux, que s'est-il passé ? Bien, le fait le plus notoire, c'est que les offres d'emploi sont en effet reparties à la hausse à près de 5,5%, alors qu'au mois de mai, le recul, lui, avait été assez fort. Un peu plus d'offres d'emploi au mois de juin, mais dans la catégorie des emplois occasionnels ou temporaires, fort peu d'emplois à plus de 6 mois. Tout laisse donc penser que ce sont surtout les jeunes qui ont profité de cette petite poussée des offres de Pôle emploi. Chez eux, le chômage recule légèrement, alors qu'il s'aggrave chez les seniors et se stabilise presque dans la catégorie intermédiaire des 25 à 49 ans. Légère amélioration donc chez les jeunes, qui contraste avec la détérioration du mois précédent, pendant que les seniors, eux, ne voient pas de répit dans la dégradation du marché du travail. Globalement, cette fois, si l'on englobe donc les chômeurs en activité réduite, on arrive à 5 043 200 demandeurs. La hausse reste donc assez vive et la situation de ces demandeurs se dégrade puisque le nombre de bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, bondit à plus de 78 000 contre 69 400 le mois dernier. C'est un signe que la précarité s'installe et qu'elle tend à s'amplifier.
Merci pour ces explications, Jean-Marc Chardon. Et ça va mieux pour Air France. Les résultats du premier semestre sont encourageants. Chiffre d'affaires en hausse d'1,7% depuis le début de l'année. Pourtant, rien n'est acquis selon le président du groupe, Alexandre de Juniac. Il faut, dit-il, poursuivre les efforts pour rester compétitif. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Poursuivre les efforts, concrètement, ça veut dire quoi, Hakim ?
Alors, après Transform, qui a supprimé plus de 8000 postes depuis 2 ans, place cette fois à Perform 2020. Le but de ce nouveau plan est en fait d'augmenter la rentabilité et la productivité, avec un objectif de croissance espéré de 4 à 6% d'ici 5 ans. Alors, pour y parvenir, l'activité long courrier sera renforcée avec des partenariats avec d'autres compagnies et puis avec un cap à l'est sur les pays du Golfe, notamment les Émirats mais aussi l'Asie, avec la Chine qui connaît une forte croissance. Sur le moyen courrier, cette fois l'offre low cost, eh bien elle va croître via la filiale d'Air France Transavia pour contrer l'offensive des compagnies low cost que sont EasyJet et Ryanair qui font perdre des parts de marché à Air France. Le PDG du groupe Air France KLM, Alexandre de Juniac, veut donc cette fois désormais redonner la parole aux salariés et au syndicat, en leur demandant de faire quelques propositions, sans dire toutefois s'il y aura des suppressions de postes. En tout cas, il a déjà quelques idées.
Par exemple, les bagages. Est-ce qu'il faut qu'on investisse dans des robots ? C'est une question. Qu'est-ce que les salariés en pensent ? La ligne bagages est plus automatisée avec un robot qui prend les valises et qui les met sur les tapis. On voit bien qu'après des années de travail, ça peut être quelque chose de pénible, ça. Et puis parce que ça exige la force. Est-ce qu'il faut faire la même chose à Charles de Gaulle ?
Alors les syndicats en tout cas saluent ce retour au dialogue, mais pour Mehdi Kemoun, secrétaire adjoint de la CGT Air France, ces mesures ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité.
Monsieur de Juniac est toujours dans le dogme. Après le dogme des 20%, il est dans le dogme de la robotique ou de la sous-traitance. Si on prend le cas de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on multiplie les intervenants autour de l'avion. Donc si on multiplie les intervenants autour de l'avion, on entraîne un risque sur la sécurité. Et l'aérien est avant tout une chaîne de sécurité.
Alors la compagnie, c'est donc 6 mois pour discuter et négocier avec les syndicats. Un CCE est prévu d'ailleurs dès mercredi prochain. En attendant, un plan détaillé sera présenté le 11 septembre prochain.
Hakim Kasmi, les tout derniers jours du Festival d'Avignon qui s'achèvera ce week-end avec le concert du groupe Les Têtes Raides, dimanche dans la cour d'honneur du Palais des Papes. La fréquentation a semble-t-il baissé cette année, non pas que le festival ait été durement touché par la grève des intermittents, mais parce que les spectateurs ont anticipé cette grève. Les organisateurs annoncent une baisse de 7% pour le festival off. On est donc à l'heure du bilan. Joël Gaillot, bilan de cette première édition sous la supervision du tout nouveau directeur Olivier Pic. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Joël ?
On attendait Stéphane avec impatience ce premier jet d'Olivier Py. Sur certains points, on n'a pas été déçus. On nous promettait notamment le retour du texte dans Avignon. Et le texte était de retour avec, par exemple, en ouverture de la manifestation, la pièce fleuve d'Olivier Py lui-même, Orlando. La parole a donc régné de nouveau dans la Cité des Papes, mais il n'y a pas eu de ces chocs esthétiques qu'on a pris l'habitude de voir ici et qui nous secouent profondément. Heureusement, Claude Régis et ses silences, Thomas Joly et ses 18 heures de Henri VI de Shakespeare, ou encore Thomas Ostermeyer avec son mariage de Maria Braun de Fassbinder, conçu comme un fondu enchaîné permanent, ont évité à cette 68e édition un des écueils qui la guettait, des spectacles qui certes font sens, mais qui se sont rarement imposés comme autant de claques balancées à la face du public. Or ici, à Avignon, on est masochiste, Stéphane. On veut se prendre des claques, on aime la prise de risque, et c'est à mon sens ce qui manquait trop souvent dans cette première édition d'Olivier Py, et qu'il faudrait dès l'année prochaine injecter avec force quelque chose de l'ordre de l'absolue nécessité, du désir impérieux, en un mot, de cette folie géniale. Quel théâtre.
La toute dernière chronique de Joël Gaillot depuis le Festival d'Avignon pour France Culture. Merci Joël. La météo, des orages encore ce soir et cette nuit sur une grosse moitié sud de la France. Demain matin, Météo France annonce de l'instabilité sur les régions ouest avec des nuages et quelques pluies, mais une amélioration qui arrivera par l'ouest du pays. Les températures 20 à 26 degrés dans la matinée, elles grimperont de 23 à 29 degrés dans l'après-midi.